jusqu'à 19h. Cap Sport. Jour J-28, les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang vont s'ouvrir dans exactement 4 semaines en Corée du Sud. Ce seront les 51e JO de l'histoire, été et hiver confondus. L'occasion de jeter un coup d'œil de le rétroviseur. Alain Mury nous a d'ailleurs mâché le travail. Le journaliste jurassien vient de publier un livre retraçant les médailles suisses acquises aux Jeux Olympiques. Il est notre invité en seconde partie d'émission. Et avant de vibrer au rythme des JO, le monde sportif se tourne vers Melbourne. L'Open d'Australie de tennis s'ouvre lundi. Roger Federer part à la conquête d'un 20e titre en Grand Chelem. On analyse les chances helvétiques dans ce tournoi. Bonsoir et bienvenue dans ce premier numéro de l'année du tennis et des Jeux Olympiques, donc au programme de cette reprise. Un menu costaud pour bien lancer 2018. Un menu costaud, c'est d'ailleurs ce qui attend Roger Federer à l'Open d'Australie. Mathieu Schaffner, bonsoir.
Oui, bonsoir Yannick. Effectivement, le tirage au sort a été effectué hier à Melbourne. Le Balois figure certainement dans la moitié de tableau la plus corsée. Il pourrait retrouver le Belge David Goffin ou bien l'Argentin Juan Martín Del Potro en quart de finale, puis l'Allemand Alexander Zverev ou le Vaudois Stan Wawrinka en demi-finale. Mais attention, des surprises sont aussi possibles. Il y a le Serbe Novak Djokovic, désormais matricule 14 à l'ATP, qui figure aussi dans ce bas du tableau, tout comme l'Autrichien Dominic Thiem d'ailleurs. Du lourd, on vous le disait, on en salive déjà.
Ah oui, ça met l'eau à la bouche, effectivement. On va analyser tout cela avec vous, Alexandre Strambini, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien joueur professionnel, vous êtes un proche de Roger Federer. Alors, parcours semé d'embûches, on le comprend bien, mais le Balois est le tenant du titre. Presque toutes les autres stars du circuit reviennent de blessures, Nadal, Djokovic, Wawrinka. Roger Federer est-il donc le grand favori de cet Open d'Australie ?
Ben, forcément qu'avec ce qu'il a montré en fin d'année, et puis ce qu'on a vu en début d'année, et les blessures et non-jeux des autres, effectivement, on peut dire que il part avec une petite raquette d'avance.
Il peut se passer beaucoup de choses, bien entendu, dans un grand chelem, mais on a quand même le sentiment que Federer, il n'a plus une voix aussi royale depuis de nombreuses années, non ? On se trompe ?
Mais non, tout à fait. On l'a vu, il y a un bon exemple qu'il ne faut pas oublier, c'est le Masters, le dernier tournoi de l'année dernière, où on avait l'impression qu'il était seul au monde parce que Nadal n'était pas là, Djokovic non plus. Et puis, il se fait battre par Goffin en demi-finale assez sèchement. Donc moi, je pense que pour des joueurs comme Federer, dans un tournoi du Grand Chelem, plus le tableau est relevé de son côté, plus il aura des matchs difficiles en avançant dans le tournoi, mieux c'est.
Alors, vous qui le connaissez bien, Roger, quel doit être son état d'esprit avant ce Grand Chelem en voyant des Nadal, Djokovic, Wawrinka qui reviennent tout juste à la compétition et puis en prenant en compte aussi l'absence d'Andy Murray?
Mais quand on a le statut de Federer, honnêtement, on se préoccupe pas trop de savoir qui joue ou qui joue pas. Hein. On est concentré sur son jeu. Avec son statut de favori, il doit vraiment faire une préparation personnelle sans du tout s'occuper de ce que les autres peuvent ou ne peuvent pas faire. Il se focalise sur lui et c'est tout, quoi.
Et dans ce sens-là, la préparation faite à la Hopman Cup, c'était la préparation parfaite à vos yeux ?
Oh, parfaite, je sais pas, on le saura dans 15 jours, mais c'est bien de pouvoir jouer, de mettre en place son jeu en ayant, on va dire, une pression limitée sur les épaules. Donc c'est plus un entraînement qu'un tournoi pour lui, avec des vrais matchs. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est quand même assez positif. Ouais.
Roger Federer, grand favori. Derrière, ça paraît quand même très ouvert, ou en tout cas très incertain. Ça pourrait permettre une sensation, comme on en voit parfois chez les dames, un 10e, un 15e joueur mondial qui va au bout, qui remporte cet Open d'Australie.
C'est toujours possible, hein, dans le sport, tout est possible. Moi, je le vois pas. Je pense pas qu'un joueur au-delà de la 15e ou de la 10e place mondiale pourrait remporter ce tournoi. Hein. On peut toujours se tromper, mais il y a quand même encore des gros calibres devant, quoi.
Et puis Alexandre Strambini, que peut-on attendre de Stan Wawrinka dans ce tournoi ? Il était demi-finaliste l'an dernier face à Federer, mais le Vaudois n'a plus joué depuis juillet suite à une double opération du genou. À quoi on peut s'attendre de lui, de ses performances ?
Alors là, je pense qu'il y a un gros point d'interrogation pour Stan, parce que le problème qu'il a, même s'il est bien physiquement, le souci qu'il a dans son jeu, lui, c'est qu'il doit beaucoup jouer pour être performant. Donc il a besoin d'accumuler beaucoup d'heures de match et passer beaucoup d'heures sur le court pour être vraiment à son top. Et là, il a Il a zéro compétition depuis longtemps. Donc, moi personnellement, je vois la chose assez compliquée pour lui, quoi.
Alors on l'a dit, beaucoup de retours de blessures. Hein. Les blessures sur le circuit ATPL deviennent de plus en plus fréquentes chez les meilleurs joueurs. Murray n'est pas présent à Melbourne. On l'a dit, Djokovic, Nadal et Wawrinka reviennent tout juste au jeu. Du coup, Noémie a voulu savoir si les saisons n'étaient pas devenues trop longues pour les organismes. C'est la question qu'elle a posée à l'ancien professionnel Marc Rosset.
Je crois pas que les saisons sont trop longues parce qu'à mon époque, on jouait plus tard encore dans la saison. Je pense que moi personnellement, l'idée que j'ai, c'est que en fait, l'ATP et les joueurs sont en train de payer une politique que j'ai jamais vraiment appréciée et que j'ai assez critiquée de nombreuses années. C'était savoir les 32 têtes de série dans les tournois du Grand Chelem, chose qui va disparaître en 2019, et sur aussi le problème de l'uniformisation des surfaces, parce que je trouvais qu'avec ces 32 têtes de série, comme les joueurs étaient relativement protégés, forcément, ils allaient souvent très loin dans les tournois du Grand Chelem, donc c'était beaucoup de matchs disputés. Et puis après, avec l'uniformisation des surfaces, les joueurs qui étaient bons, ils jouaient bien toute la saison, et forcément, il y avait plus d'accumulation de matchs, puis les surfaces qui étaient plus lentes aussi, donc il y a plus d'échanges du fond de course, c'était un peu plus, on va dire, un tennis assez physique. Et c'est pour ça qu'on voit des joueurs arriver à maturité, on va dire, un petit peu plus tard que ce que ça a été pendant de longues années. Je veux dire, où il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné les grands chelems à 18, 19, 20 ans. Ça fait une dizaine d'années que c'est plus le cas. Et je pense que le tennis est devenu trop physique avec ses surfaces. Et c'est peut-être pour ça que maintenant, on est vraiment une hécatombe de joueurs blessés depuis bientôt 6 mois, quoi.
Vous partagez cet avis de Marc Rosset, Alexandre Strambini. Les saisons ne sont pas trop longues, mais les 32 têtes de série en Grand Chelem, et puis cette uniformisation des surfaces, c'est véritablement ça qui pose problème ?
Je pense qu'effectivement, c'est une des composantes du souci. Mais il y a aussi le problème de l'âge des compétiteurs. Hein, comme Marc l'a souligné, les joueurs deviennent bons ou au premier plan plus tard, donc ils jouent plus longtemps. Donc ils accumulent forcément plus d'heures de jeu, et puis ça, l'organisme, au bout d'un moment, quand vous savez la charge que le corps doit prendre sur une saison, avant, les joueurs, ils s'arrêtaient à 30 ans, 28, 30, 32 ans, que maintenant, ils sont matures à cet âge-là. Donc ils accumulent 5, 6, 7 saisons supplémentaires, et ça, c'est des charges qui sont très très lourdes pour le corps.
Mais alors, comment on explique que les joueurs arrivent à maturité, comme vous le dites, si tard, entre guillemets, dorénavant?
C'est aussi le jeu qui a évolué. Hein. Les surfaces, les balles, c'est tout des choses qui font que le jeune joueur ou le junior qui arrive chez les pros nécessite plus de temps pour venir à maturité et mettre son jeu bien en place.
Un retour en arrière, il faut y aller dans un retour en arrière. On va abandonner les 32 têtes de série, il n'y en aura plus que 16 dès l'an prochain. Ça doit permettre déjà d'éliminer certaines blessures.
Honnêtement, je ne pense pas. Quoi, non, parce que même s'il n'y a que... Enfin, ça va éviter quelques matchs à certains joueurs parce qu'ils vont se rencontrer un peu plus vite. Mais les bons vont toujours jouer beaucoup de matchs. Donc, ils auront toujours des charges de physique très, très importantes. Quoi.
Mais alors, comment les éviter finalement? Il faudrait carrément supprimer les têtes de série, faire que tout à coup, un Nadal Federer puisse se produire au premier tour à Melbourne?
Non, mais vous ne pouvez pas éviter des blessures dans le sport. Hein, j'entends, ça fait partie d'une équation qui fait partie de la vie d'un sportif. Tout sportif va se blesser un jour. Après, c'est à chacun de gérer sa carrière d'une manière dont il pense être la bonne. On a eu un exemple avec Roger qui a lancé une nouvelle mode avec une pause de 6 mois pour se remettre complètement d'aplomb. Et c'est peut-être des choses où peut-être les joueurs devront faire des choix et puis aménager des pauses plus longues pour se préserver, tout simplement. Mais les blessures, encore une fois, ça c'est une équation qui fait partie du monde du sport. Hein.
Alors penchons-nous maintenant peut-être sur le tableau féminin et plus particulièrement sur la Suissesse en forme du moment, c'est la Saint-Galloise Belinda Bencic. Alors avant de vous donner la parole, Alexandre Strambini, écoutez ce que pense Marc Rosset de cette joueuse, Belinda Bencic qui enchaîne les victoires depuis la fin d'année dernière et qui a disputé une très bonne Hopman Cup aux côtés de Roger Federer.
Ce qui m'a vraiment fait plaisir avec ces matchs à la Hopman Cup, c'est que L'année passée, elle a gagné beaucoup de matchs pour revenir à certains classements, mais c'était vraiment des matchs dans des petits tournois. Donc, elle avait battu des joueuses qui n'étaient pas forcément très, très bien classées, on va dire. Alors que là, la Point Cup, elle a quand même fait des jolies victoires face à des top joueuses. Donc, ça montre que son niveau de jeu, il est là. Et puis, en plus, elle a déjà été top 10. Donc, après, ça va dépendre le tirage au sort. Si elle a un tirage au sort clément, elle peut briller. Si, d'un coup, elle a une tête de série dure au premier tour, ça peut être compliqué pour elle. Mais au-delà de ça, je me dis que sur l'année 2018, si elle arrive à justement à plus avoir de blessures et garder cette constance de jeu, je pense qu'on va vite la revoir très très bien classée.
Interview réalisée, vous l'aurez compris, par Noémie avant le tirage au sort de cet Open d'Australie. Belinda Bencic est à nouveau sur le chemin du top 10 mondial pour vous, Alexandre Strombini?
En tout cas, elle en a très clairement les possibilités, vu qu'elle en a déjà fait partie. Donc après, effectivement, si elle a aussi un peu de chance dans les tirages au sort, des bons tournois, et puis qu'elle préserve des blessures, oui, elle a le potentiel d'y revenir, oui, clairement.
Et forcément, c'est aussi une question de confiance à ce niveau-là?
De confiance et de plaisir. Hein. J'entends, pour revenir sur ce que disait Marc là, à l'Open Cup, elle a aussi retrouvé le plaisir de jouer, parce qu'elle a passé une année un peu de galère, où c'est qu'elle était dans les petits tournois, où c'est que c'est pas forcément plaisant quand on a jeté dans le top 10 de passer par là. Et puis là, elle s'est éclatée pendant cette semaine-là, et puis c'est très important d'avoir le plaisir de jouer, quoi.
Marc Rosset évoquait aussi l'importance du tirage au sort. Bencic qui va défier Venus Williams, la cinquième joueuse mondiale dès le premier tour. C'est mort d'entrée pour la Saint-Galloise?
Non, parce que c'est bien connu que dans les grands chelems, les meilleurs tours pour battre les plus forts, c'est au début du tournoi. Donc il faut, de toute façon, elle croit en son jeu, elle croit en sa chance. Et puis c'est vraiment là qu'il faut saisir une opportunité pour battre les top joueuses.
Et on a l'impression que finalement, ça peut presque lui être bénéfique d'avoir ce premier tour contre un gros morceau. Ça oblige d'entrer à être performant et puis peut-être à faire un gros parcours.
Alors c'est pas négatif d'avoir effectivement ce tirage au sort là. Maintenant, son état de forme physique va aussi donner une bonne réponse par rapport à ses chances. Malheureusement, je connais pas son état de forme physique, mais voilà, il faut quand même être prêt, quoi. Hein, j'entends, faut pas. Ce sera un gros test.
Un grand chelem dans l'escarcelle de Belinda Bencic. Là, on se met à rêver, ou bien c'est du domaine du possible pour vous dès cette année?
Pas en début d'année, mais dans le courant de l'année, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, elle a déjà fait partie du top 10, donc elle a le niveau, elle sait comment gérer les gros événements, la pression. Donc moi, je pense que peut-être pas forcément cette année, disons. Si je devais miser une pièce, je dirais plutôt l'année prochaine que cette année, mais peut-être de bons résultats en deuxième partie d'année.
Et puis Alexandre Strombini, peut-être pour conclure, un petit mot sur les deux régionales hein, qui étaient en lice dans les qualifications de cet Open d'Australie, la Viennoise Jill Teichmann et la Neuchâteloise Conny Perrin. Alors elles ont été éliminées dès le premier tour, mais est-ce possible de voir ces deux joueuses un jour intégrer le top 100, voire le top 50?
Alors je ne vais pas vous raconter de bêtises, j'en ai aucune idée, je ne connais pas ces joueuses. Mais dès le moment où c'est que vous avez un niveau pour atteindre les qualifications de Grand Chelem, vous savez déjà jouer au tennis. Donc après, il peut y avoir des petits déclics qui arrivent et qui vous permettent de passer à un stade supérieur et puis engranger les victoires et puis monter dans le classement. Oui.
Mais en tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alexandre Strombini, ancien joueur professionnel, vous êtes donc notre consultant tennis. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci.
L'Open d'Australie donc, qui débute lundi du côté de Melbourne. Premier tournoi du Grand Chelem de l'année.
Cap Sport jusqu'à 19h.
Et c'est parti à présent pour un regard dans le rétroviseur. À 4 semaines du lancement des Jeux Olympiques de Pyeongchang, on s'arrête ce soir sur un livre qui retrace 120 ans d'histoire helvétique aux JO.
Oui, les Suisses aux Jeux Olympiques 1896-2016, légende et histoire, c'est votre ouvrage, Alain Meury. Bonsoir. Alain Meury, vous êtes avec
oui,
nous?
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, oui. Voilà, bonsoir. Un livre paru aux éditions Slatkin, plus de 400 pages pour évoquer les 328 médailles suisses récoltées lors des JO jusqu'à présent. Plus qu'un livre, on peut parler d'un véritable hommage que vous adressez là au sport helvétique.
Oui, absolument. C'est le mot est juste. C'est un hommage, hein, parce que j'ai entendu parler de Bible, de dictionnaire, et pas du tout. C'est pas du tout ma prétention. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais un hommage, oui, effectivement, ça l'est. Voilà, ces sportifs suisses qui ont eu un mérite extraordinaire et puis qui sont forcément méconnus, voire inconnus pour ceux qui sont avant la Deuxième Guerre mondiale et qui pourtant ont des mérites évidents.
Alors, qu'est-ce qui vous a pris de livrer cet hommage? Il y a quand même près de 2 ans de travail là derrière.
Oui, alors bon, c'est vrai que les 2 ans, c'est lorsque l'on met toutes les heures, tous les moments, les uns derrière l'autre ou les uns sur les autres. C'est, je dirais que l'idée m'est venue au moment des Jeux de Vancouver en 2010. Donc j'étais encore professionnel parce que maintenant je suis retraité. Et en travaillant là-dessus sur des sujets d'archives, je me suis dit mais tiens, on n'a jamais parlé de tous les Suisses qui ont gagné une médaille, ça n'a jamais été fait. Et l'idée est venue là. Puis c'est en 2016, au moment de mon départ à la retraite, que je me suis dit, ben voilà, cette fois je vais avancer avec ça, et voilà.
Alors vous êtes journaliste retraité, vous venez de le dire, mais là, c'est plus un travail d'historien que vous avez mené, j'imagine, parce que Internet peut être utile, oui, mais pas forcément pour notamment la première moitié du XXe siècle.
Non, ça c'est vrai, oui, ça c'est vrai. Internet est utile quand même. Il faut encore trouver les bons sites et tout. Puis tout ce qui est avant la Deuxième Guerre mondiale, il faut pas oublier que ça permet de parler justement de l'évolution des médias, du sport, l'évolution parallèle du sport et des médias. C'est-à-dire qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, les Jeux Olympiques, mis à part 1936 Berlin, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le sport, hein, malheureusement, n'avait aucune place dans les médias, enfin aucune place, quelques brèves comme ça, oui, les Jeux Olympiques 1928, Amsterdam, mais vous aviez, je sais pas, 40 lignes, maintenant vous imaginez. Et après la Seconde Guerre mondiale, ben tout s'est développé. Il y a eu l'arrivée de la radio, le développement de la presse écrite, puis maintenant, ben je vous parle même pas quoi. La télévision, Internet, vous pouvez regarder les Jeux Olympiques sur votre portable, voilà. Donc et le sport a profité de cela comme les médias ont profité du sport.
Vous dites d'ailleurs dans ce livre hein, que certains athlètes ont disparu des écrans radars des historiens du sport et même de leur fédération ou de leur club. C'est justement en raison de cette peut-être moins grande couverture médiatique à l'époque ?
Oui, oui, mais bien sûr, c'est dû complètement à ça. Mais je le dis, je n'ai pas émis de critique par rapport à ça, mais j'ai un regret quand même. C'est que je me dis que les fédérations, les clubs devraient quand même un petit peu cultiver le souvenir. Il ne s'agit pas d'être passéiste ou nostalgique ou quoi que ce soit, mais quand même ces gens qui ont défendu les couleurs suisses, les couleurs de leur club, vous prenez en 1920, je prends l'exemple au hasard, un Eugène Ritter qui vient de La Chaux-de-Fonds mais qui s'entraîne à Neuchâtel, qui est un haltérophile dans les poids-plumes. Il a disparu, complètement disparu. Personne ne sait qu'il a existé. C'est une injustice parce que sa préparation, vous vous rendez compte, à l'époque, il n'y avait pas de professionnalisme. Donc, cet homme, il travaillait toute la journée. Je ne sais pas dans quoi il travaillait, mais il travaillait toute la journée, puis le soir, il descendait à Neuchâtel pour soulever de la fonte. Et pour moi, il a autant de mérite qu'un Roger Federer, pour qui c'est le métier. Je dis Roger Federer parce qu'évidemment, c'est le maître absolu, puis tout le monde le connaît, et il a dû faire des efforts aussi. Mais voilà, Eugène Ritter, je trouve un peu injuste qu'on ne lui rende pas hommage.
Alors justement, Alain Meury, vous parlez de légendes et d'histoire. On n'a pas le temps de s'arrêter sur chaque athlète, mais quels sont peut-être les 2 ou 3 sportifs qui vous ont le plus marqué en écrivant cet ouvrage? Vous avez évoqué Eugène Ritter. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Ah oui, bon, il y a beaucoup de gens qui m'ont marqué. Alors d'abord, je dirais sentimentalement la victoire à Londres de Steve Gerda, que j'ai eu la chance de commenter en direct. Évidemment, ça m'a.
On s'en souvient encore.
Oui, tout le monde s'en souvient. Il y a aussi sentimentalement, et si jamais il nous écoute, je lui fais un gros bisou, Étienne Dagon, qui a été le seul médaillé suisse en natation de toute l'histoire des Jeux Olympiques. Hein. C'était à Los Angeles en 1984. Puis à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont ému. Je me souviens aussi de Pascal Richard en 1996 à Atlanta, quand il gagne la course en ligne d'une manière absolument extraordinaire, ou du duel. On a appelé ça un duel Russie-Colombin, par exemple, en 1972. Qui n'était pas encore un vrai duel, parce que Russie dominait la descente à ce moment-là, alors que Roland n'avait pas encore fait grand-chose en Coupe du Monde. Ça l'empêchera pas de remporter la Coupe du Monde de la descente en 73-74. Mais en 72 à Sapporo, c'était un peu une surprise. Ben, il y en aurait des tas de comme ça.
Oui, il y a des anecdotes aussi à découvrir dans ce livre. Vous parlez par exemple de Franny Schneider, hein, l'ex-championne de ski, pour qui vous dites finalement les aiguilles à tricoter et puis l'accordéon n'étaient jamais très loin d'elle. Racontez-nous un peu, ça nous intrigue.
Écoutez, je vais vous dire, je l'ai vécu en direct parce qu'à l'époque où j'étais stagiaire à la... feu journal La Suisse, le spécialiste André Page du ski alpin avait eu un petit accident, puis on m'a demandé de le remplacer. Et je me souviens que j'avais, couvert 2-3 épreuves Coupe du Monde de ski, dans lesquelles il y avait déjà Franny Schneider. Et c'était rigolo, je crois que c'était à Zinal, parce que, bon, c'était une artiste extraordinaire sur la piste, et c'était une femme, je crois qu'elle est restée comme ça, c'était une femme toute simple. C'est quelqu'un qui se prenait pas au sérieux. Et puis, quand elle rentrait à l'hôtel après la course, après l'avoir gagnée, en général, enfin, très souvent, en tout cas, elle se reposait, elle se décontractait en tricotant. Et puis, des fois, effectivement, elle sortait, c'est vraiment une glaronnaise, quoi. Elle sortait son accordéon, et puis, voilà, et puis, elle poussait une petite musette. C'était vraiment Franny Schneider. C'est une championne qui m'a impressionné, mais à tous les niveaux.
Et bien voilà, Alain Meury, journaliste jurassien, retraité et auteur de ce livre, Les Suisses aux Jeux Olympiques. Merci d'avoir pris le temps de répondre en direct à nos questions. Très beau week-end à vous.
Merci à vous. Très bon week-end. Au revoir.
Et le premier numéro 2018 de Casport est donc à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous.
Et puis rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles thématiques. Très beau week-end.